Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je vous rappelle que vous avez les plans des différentes interventions qui vous permettent de prendre des notes. Un petit rappel peut-être pour ceux qui nous ont rejoints, je pense à Alexis, notamment hier. Nous sommes en train d'étudier le quatrième chant du serviteur, un chant, un poème composé de 5 strophes, organisé en structure, à mon sens, concentrique, c'est-à-dire que la première partie, la dernière partie du poème se correspondent. Il s'agit, nous l'avons vu, de l'exaltation du serviteur, un serviteur qui va être élevé, vous vous rappelez, parce qu'il va être défiguré, parce que sacrifié. Et la sagesse de Dieu va confondre la sagesse des hommes au travers de ce serviteur. Dans un deuxième temps, Ésaïe va nous décrire la naissance et le quotidien du serviteur. Et c'est au travers de ce serviteur que la puissance de Dieu va, en fait, œuvrer. C'est la puissance dans la faiblesse. Le cœur du poème se trouve dans les versets 4 à 6, des versets dans lesquels Dieu va expliquer le sens des souffrances de serviteur. Pourquoi a-t-il souffert finalement? C'est ce que nous avons vu hier, vous vous rappelez? Pour nous guérir par ses meurtrissures, pour nous sauver par sa mort. Et aujourd'hui, la quatrième strophe du quatrième chant du serviteur qui correspond donc, si vous m'avez suivi, à la deuxième, ok. Dans la deuxième strophe, Ésaïe va nous dire que le serviteur a été exclu des hommes, homme de douleur, méprisé des hommes, vous rappelez, habitué à la souffrance, et là il va nous dire qu'il va être exclu de la vie. Dans ses aphorismes sur la sagesse dans la vie, le philosophe allemand Arthur Schopenhauer, 18e siècle, écrit ceci: l'égoïsme régit le monde. L'égoïsme régit le monde. D'accord? Pas d'accord? Qu'est-ce que vous en pensez? L'égoïsme régit le monde. D'un côté, vous pourriez reprocher à Schopenhauer d'avoir une vision assez pessimiste de la vie, n'est-ce pas? Le monde n'est pas seulement régi par l'égoïsme, mais aussi par l'altruisme, l'amour d'autrui, la solidarité entre les hommes. Et le monde dans lequel nous vivons pourrait nous offrir bien des exemples de cette solidarité, non? Mais d'un autre côté, nous pourrions reconnaître un certain réalisme dans la pensée du philosophe allemand, qui a aussi écrit ceci, je le cite: l'égoïsme inspire une telle horreur que nous avons inventé la politesse pour le cacher, mais il perce à travers tous les voiles et se trahit en toute rencontre. Le monde dans lequel nous vivons n'est-il pas finalement régi, dominé par l'égoïsme? Dans le monde du football, par exemple, Hatem Ben Arfa, un autre philosophe. Non, je dois être gentil avec lui, c'est un Lyonnais qui évolue aujourd'hui dans le club de Newcastle, en Angleterre, un club qui va très mal d'ailleurs. Et qui est quoi? Oui, c'est vrai qu'ils ne sont pas très forts. Voilà ce que Hatem Ben Arfa a déclaré dans une interview en 2012. Les jeunes joueurs sont égoïstes. J'étais comme ça. Quand vous êtes jeune, vous ne pensez qu'à vous mettre en avant, à être au centre des attentions. Vous voulez que les gens disent que vous êtes le meilleur. C'est le cas dans le monde du foot, c'est peut-être le cas dans d'autres sports, dans le monde des études ou même dans le monde du travail. Qui n'a jamais été tenté, par exemple, de travailler seul? Seul plutôt qu'en groupe, de ne pas partager son savoir-faire, son expérience, pour que les autres puissent ne pas en profiter, mais pour que nous soyons les seuls à en profiter, à tirer toute la gloire. Ces exemples, finalement, ne révèlent-ils pas que le monde dont nous sommes les acteurs est régi, dominé par une certaine forme d'égoïsme, un certain désir de se mettre en avant, de se glorifier? Vous vous sentez concerné? Personnellement, je pense que je me sens concerné. Si vous reconnaissez, mes amis, que l'égoïsme ou l'orgueil est un problème majeur dans votre vie, j'ai une bonne nouvelle. C'est que la Bible a ce qu'il vous faut. Un modèle, un exemple à suivre en matière d'humilité. Vous connaissez cette blague? C'est Paul King qui me l'a raconté, l'histoire d'un élève à qui l'on rend une copie de mathématiques. Et la prof dit en fait, tu as triché. Et le garçon dit, non, j'ai pas triché. Pourquoi vous dites ça, madame? Mais parce qu'à la première réponse, tu as dit oui, et ton voisin a dit oui. Vous avez triché? Ben non, on a tous les deux donné la bonne réponse. Oui, mais à la deuxième question, ton voisin a répondu non. Et toi, tu as répondu non. Oui, madame, mais cela ne prouve rien, excusez-moi. Nous avons tous les deux donné la bonne réponse. Et là, le prof lui dit, oui, mais à la troisième réponse, à la troisième question, pardon. Ton voisin a répondu non. Et toi, tu as répondu, moi non plus. Ou je ne sais pas. Nous avons tous des modèles dans la vie, n'est-ce pas? Nous copions tous l'exemple de quelqu'un. Qui est votre modèle? Qui est-ce que vous suivez? J'aimerais vous inviter à suivre un modèle en matière d'humilité. Et c'est ce que j'aimerais voir avec vous ce matin en une idée simple que j'aimerais que nous retenions. C'est que le serviteur s'est humilié jusqu'à la mort. L'humilité jusqu'à la mort. Regardons ensemble Ésaïe chapitre 53, versets 7 à 9. Il était maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Il était emporté par la violence et le jugement. Dans sa génération, qui s'est soucié de ce qu'il était retranché de la terre des vivants? À cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints, on a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche, quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de fraude dans sa bouche. L'humilité jusqu'à la mort. J'aimerais voir avec vous trois choses assez simples ce matin. Premièrement, une mort volontaire, une mort vicaire, une mort arbitraire. Regardez le verset 7 encore avec moi. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. La mort du serviteur n'est pas du tout une erreur, ce n'est pas du tout un accident. La mort du serviteur n'est pas du tout accidentelle, elle est clairement intentionnelle. Regardez la première partie du verset 7. Il s'est humilié. C'est un verbe pronominal réfléchi pour les profs de français ou ceux qui se préparent à devenir profs de français. L'action est exercée par le sujet sur lui-même. Il s'est humilié. Regardez la deuxième partie du verset 7. Il n'a pas ouvert la bouche. Et cette même phrase est répétée au début du verset. Hein. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a accepté sa mort comme un agneau qu'on mène à la boucherie, à l'abattoir. Comme une brebis muette devant ceux qui la tondent. Tant et si bien que le premier point de ce message, au lieu d'être intitulé une mort volontaire, pourrait très bien être intitulé le silence de l'agneau. Référence au film Le silence des agneaux. Vous avez vu ce film? Quand j'étais jeune, avec Jodie Foster. Bon, ne regardez peut-être pas ce film si vous êtes seul un soir d'hiver à 3h du matin. Il fait un peu peur. Mais c'est un peu le silence de l'agneau. Un agneau qui s'est humilié et qui n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et c'est ce que j'aimerais vous montrer, comment en fait les prophéties dans l'Ancien Testament, et notamment cette prophétie d'Ésaïe 53, s'accomplit pleinement dans la personne du Seigneur Jésus, dont la vie, la mort et la résurrection sont rapportées dans les évangiles. Rappelez-vous, Jésus est arrêté par les soldats romains en pleine nuit, ce qui est illégal d'ailleurs. Il comparaît devant le Sanhédrin, l'institution un peu civile et religieuse à l'époque. Et comment réagit-il face au souverain sacrificateur, au grand prêtre, qui lui demande de répondre aux fausses accusations qui pèsent contre lui? Comment est-ce que Jésus répond? Eh bien, Matthieu, chapitre 26, verset 63, déclare qu'il garde le silence. Motus et bouche cousue. Maintenant, devant Hérode, le gouverneur de Galilée, qui l'interroge longuement, qu'est-ce que répond Jésus? Luc, chapitre 23, verset 9, Jésus ne répond rien. Devant Pilate maintenant, le gouverneur de Judée, qui l'interroge sur son identité, Jésus répond qu'il est bien le roi des Juifs, mais ne fait plus aucune réponse, nous dit le texte, aux questions supplémentaires qui lui sont posées. Un silence qui va étonner Pilate d'ailleurs, parce que Jésus renonce au droit de se défendre que lui accorde la loi. Est-ce que vous comprenez comment Jésus, le serviteur, s'est humilié et comment cette humilité l'a mené jusqu'à la mort, alors qu'il aurait eu le droit d'ouvrir la bouche? Alors qu'il aurait pu invoquer le Père pour qu'il envoie des dizaines de milliers d'anges à son secours, il a volontairement renoncé à se défendre. Il a accepté sa condamnation comme l'accomplissement des promesses de Dieu dans l'Ancien Testament. C'est ce que Jésus dira lui-même dans les évangiles. Hein. Mais il en est ainsi pour que les Écritures, c'est-à-dire au bas mot l'Ancien Testament, hein, s'accomplissent. dans sa conscience messianique, Jésus a toujours été maître de son destin, pleinement conscient de son identité en tant que Messie, pleinement conscient de sa mission qui consistera à souffrir, à s'humilier jusqu'à la mort, l'humilité jusqu'à la mort, au travers d'une mort volontaire, mais aussi au travers d'une mort vicaire. C'est le deuxième point, une mort vicaire, c'est-à-dire subie à notre place. Le mot vicaire en latin, vicarius, suppléant, remplaçant. Jésus est celui qui nous supplée, qui nous remplace, qui prend notre place sur la croix. Regardez avec moi le verset 8. Il a été emporté par la violence et le jugement. Dans sa génération, qui s'est soucié de ce qu'il était retranché de la terre des vivants à cause des crimes de mon peuple, de l'appelé qui les avait atteints. Petite parenthèse technique, hein, une petite partie de ce verset est peut-être traduite de manière différente dans vos versions. Et comme nous l'avons déjà dit, ces différentes de traductions ne remettent pas du tout en cause le sens général du passage. D'accord ? Donc ne soyez pas surpris si ma version, la Colombe, est légèrement différente de la vôtre. Fin de la parenthèse. Mais dans ce verset, dans la continuité des versets précédents, ce qui me semble cohérent, Ésaïe insiste sur quoi ? Il me semble qu'il insiste encore sur l'humilité dont le serviteur a fait preuve et qui l'a conduit à la mort. Regardez encore le verset. Dans son humilité, le serviteur a accepté d'être pris, je ne sais pas comment vos versions traduisent, emporté, arraché à la vie, suite à un jugement, ça vous rappelle quelque chose ? Subi à notre place, à cause des crimes de son peuple, à cause de moi. Une situation tragique, n'est-ce pas ? Absolument tragique, qui n'a pas suscité l'inquiétude de beaucoup de monde, d'où l'importance de la question rhétorique. Rhétorique, H, après le R, d'accord ? D'où cette question rhétorique, regardez encore au verset 8. Mais dans sa génération, qui s'est soucié de ce qu'il était retranché de la terre des vivants ? Réponse, personne. Personne, ou en tout cas peu de monde, comme en témoignent, aux surprises, les quatre évangiles. Qui s'est soucié de la mort de Jésus lorsqu'il a été crucifié ? Trahi par Judas, vous vous rappelez, dans les évangiles ? Renié par Pierre, qui avait pourtant promis de ne pas le renier ? Abandonné par tous ses disciples ? Frappé, fouetté, insulté, méprisé ? Jésus n'a suscité, à mon sens, l'inquiétude que de trois personnes. Il y en a peut-être d'autres, ok ? Mais au moins trois personnes. Un centenier qui reconnaît l'innocence de Jésus. Vous vous rappelez, réellement, cet homme était le Fils de Dieu, pensera-t-il au pied de la croix. L'un des deux bandits crucifiés avec Jésus. Jésus a été crucifié aux côtés de deux bandits. Et l'un des bandits va reconnaître son innocence en disant « Nous recevons ce que nous méritons, mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et puis un dernier homme, Joseph d'Arimathée, qui va demander le corps de Jésus à Pilate après sa mort et qui va le déposer dans un tombeau tout neuf qui s'était fait tailler pour lui-même. Alors vous allez me dire qu'à ces trois hommes, nous, et puisque nous vivons au pays de la parité, sauf dans le mariage, hein, faut quand même pas exagérer, puisque nous vivons dans le pays de la parité, nous pourrions rajouter les quelques femmes, c'est vrai. Marc, chapitre 15, verset 40, fait allusion aux quelques femmes qui regardent de loin ce qui s'est passé, qui regardent la scène de la crucifixion et qui comprennent peut-être comme le bandit sur leur croix que la mort de Jésus est vraiment, vraiment arbitraire. C'est le troisième et dernier point. Jésus, le serviteur, s'est humilié jusqu'à la mort, une mort volontaire, une mort vicaire, troisièmement et dernièrement, une mort complètement arbitraire. Regardez le verset 9 avec moi. On a mis son tombeau parmi les méchants, son sépulcre avec le riche, quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de fraude dans sa bouche. Une mort arbitraire. Pourquoi arbitraire ? Car le serviteur n'avait strictement rien fait de mal. Rien. Il ne méritait pas de souffrir et il est pourtant mort comme un criminel. On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche. Alors j'ai consulté le commentaire de Jean Calvin en anglais. Sur Ésaïe, et à propos de ce verset assez difficile, Jean Calvin écrit ceci. Je considère que ceci, par conséquent, est le véritable sens bien que je souhaite laisser chaque personne libre de former sa propre opinion. Bel exemple d'humilité, n'est-ce pas? Et en fait, je pense que je vais suivre son exemple. C'est exactement ce que je vais faire. Je vais vous exposer ma compréhension de ce verset en vous laissant libre de former en fait votre propre opinion. Dans ce verset, il me semble qu'Ésaïe emploie en fait un langage métaphorique pour désigner, pour parler de la mort du serviteur qui s'est humilié en acceptant d'être considéré comme un méchant, comme un riche. Ce mot ayant une connotation très péjorative à l'époque. Trois indices militent en faveur de cette interprétation, à mon sens. Premier indice, dans l'hébreu biblique, le mot « tombe » peut avoir un sens métaphorique et fait référence à la mort ou à ce qu'on appelle le séjour des morts, le shéol. Deuxième indice, dans la poésie hébraïque, n'oublions pas que nous sommes en train de lire un poème. Dans la poésie hébraïque, les auteurs utilisent parfois ce qu'on appelle des parallélismes, dans lesquels ils rapprochent des mots différents pour désigner les mêmes réalités. Et je pense, et je peux me tromper, mais je pense que c'est ce que fait Ésaïe dans ce verset, où il met en parallèle deux choses. Vous les avez vues ? D'un côté, les méchants, et de l'autre côté, le riche. Mais pour parler, à mon avis, des mêmes personnes, le mot « riche » est ce qu'on appelle un singulier collectif. Ok ? C'est un singulier qui représente un ensemble de personnes. C'est un peu comme si vous disiez « aujourd'hui, je vais aller chasser le lion ». En fait, dans votre esprit, vous espérez chasser plusieurs lions, quoi. Le lion, c'est un singulier collectif qui représente un ensemble de lions. Ok ? Troisième et dernier indice. À l'époque d'Ésaïe, les riches n'avaient pas vraiment une très bonne réputation. Ils étaient considérés comme des hommes violents, ayant acquis leur richesse de manière malhonnête. Et là, je vous renvoie à Michée, chapitre 10, verset 12. Okay. Mais en fait, quelle que soit notre interprétation de ce verset, ce qui est sûr, c'est que le serviteur a fait preuve d'une certaine humilité, non ? Une humilité qu'il a vraiment conduit jusqu'à la mort. Une mort arbitraire, dans la mesure où il n'avait rien fait de mal et où il ne méritait pas de souffrir. Regardez encore le verset. « On a mis son tombeau parmi les méchants, son sépulcre avec le riche, quoiqu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de fraude dans sa bouche. » Et c'est une innocence que l'apôtre Pierre appliquera à Jésus dans sa première épître, non ? Ceux qui ont, s'apprêtent à animer leur étude sur Pierre ont peut-être lu ce passage, 1 Pierre chapitre 1, verset 22. Et c'est ce dont témoignent les évangiles après avoir été arrêtés et interrogés par les autorités juives dans le cadre d'un procès illégal, un procès de nuit, un procès fait dans la violence et fait de faux témoignages. Si vous relisez les évangiles, vous constatez le caractère illégal de ce procès de nuit, fait de faux témoignages et fait dans la violence. Jésus est présenté à Pilate qui décide de le condamner à mort alors qu'il sait parfaitement qu'il est innocent. C'est ce qui s'est passé, non ? C'est exactement ce qui s'est passé. « Moi, dira-t-il, je ne trouve aucun motif de condamnation en lui. Et je m'en lave les mains », ce qui a donné aujourd'hui une expression. Et vous comprenez, c'est dans ce sens que la mort du serviteur et de Jésus est complètement arbitraire. C'est parce qu'elle dépend d'une décision individuelle. Même si nous croyons, et même si vous croyez, j'espère, que cette décision fait partie intégrante du plan souverain de Dieu pour le salut de tous ceux qui placent leur confiance en lui. Ça faisait partie du plan de Dieu, dans sa volonté souveraine, qui inclut la responsabilité de créatures morales et humaines que nous sommes. Le serviteur s'est donc humilié jusqu'à la mort. Une mort volontaire, une mort intentionnelle, une mort vicaire, à notre place, une mort arbitraire, injuste. Quelles sont finalement les implications de cette humilité dans notre vie? J'aimerais terminer par un point d'application et un petit épilogue, avant l'heure. Application centrale qui va vous surprendre, s'humilier. S'humilier. Et là, j'emprunte un exemple à Dominique Angers, qui est un ami, qui m'a permis d'emprunter cette petite illustration qui est le fruit de son imagination débordante. Donc Dominique, si tu nous écoutes, merci. Dominique Angers, qui fut notre orateur au congrès à Lyon il y a quelques années. Le 10 décembre 1948, est-ce que vous savez ce qui s'est passé ? 10 décembre 1948, les Nations Unies adoptent la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui affirme notamment, je cite, que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Article 1er. Et que, je cite, article 3, tout individu a droit à la vie, à la liberté et la sûreté de sa personne. Ce qu'on appelle les droits de l'homme. Depuis 1948, les hommes ont donc des droits. Vous êtes d'accord avec moi ? Okay. En théorie. Qui n'est peut-être pas mis en pratique partout dans le monde. Mais je pose la question. Qu'en est-il ? Qu'en est-il des droits de Dieu ? Oui, mais qu'en est-il des droits de Dieu ? Dieu a-t-il des droits ? Quelqu'un a-t-il déjà songé à rédiger la Déclaration universelle des droits de Dieu ? Est-ce que vous y avez déjà pensé ? Et si vous deviez rédiger cette Déclaration universelle des droits de Dieu, en conformité avec l'enseignement biblique, comment est-ce que vous commenceriez ? Personnellement, je commencerai comme ça. Dieu, le créateur de l'univers, qui a tout créé, a le droit d'être reconnu, respecté et adoré par toutes ses créatures. Je vous laisse rédiger la suite. Pourquoi cette illustration ? Alors que Jésus, Dieu en personne, nous l'avons vu dans le cadre de la Trinité, alors que Dieu le Fils aurait eu le droit d'être égoïste, alors qu'il aurait eu le droit de dire « J'ai le droit d'être traité comme Dieu. Pourquoi » Pourquoi ? Parce que je suis Dieu. Alors qu'il aurait très bien pu dire « Je mérite beaucoup mieux que la condition du serviteur. » Il s'est humilié jusqu'à la mort. C'est un peu comme s'il avait déchiré la Déclaration universelle des droits de Dieu que vous auriez écrite. Et si Jésus, Dieu en personne, s'est humilié jusqu'à la mort, s'il a renoncé à ses droits, à ses prérogatives en tant que Dieu, pour nous servir, pour vous servir, en acceptant de mourir, à combien plus forte raison devrais-je moi-même m'humilier mais renoncer à mes droits ? Non ? Pour le servir, pour vous servir, de quel droit est-ce que je revendique mes droits ? De quel droit ? Imaginez un peu. À quoi ressemblerait votre église locale, votre GBU local ou le camp Fort la Forme 2013 si tout le monde disait ceci ? Situation purement fictive. Quand je viens dans mon église locale, quand je vais dans mon église le dimanche matin ou le dimanche soir, quand je vais au GBU le mardi soir ou le mercredi soir, quand je viens au camp Fort la Forme, je mérite d'être apprécié, aimé, et mis en valeur et servi tous les jours. Quand je vais à l'église, quand je vais dans mon GBU, quand je vais au camp la Fond la Forme, je refuse de servir les autres en mettant la table du petit-déj le matin, en apportant la collation au GBU le mercredi soir, en passant le balai après la discussion. C'est humiliant. Quand je vais à l'église, quand je vais au GBU, quand je vais au camp la Fond la Forme, en fait j'ai même le droit de ne pas venir au GBU. Et j'ai même le droit de ne pas venir et de ne pas aller à l'église. C'est mon droit. J'ai le droit de ne pas y aller pour encourager mes frères et sœurs dans la foi. J'ai le droit de ne pas consacrer mon temps, mon argent, qui m'appartiennent bien sûr, parce que c'est moi qui ai créé mon temps. Et c'est moi qui ai créé mon argent. Tout ça m'appartient, n'est-ce pas ? Ça n'appartient surtout pas à Dieu qui a tout créé. C'est mon temps, mon argent. Et j'ai le droit de ne pas consacrer mon temps et mon argent aux autres et à Dieu. C'est mon droit. J'ai le droit de ne pas consacrer toutes ces choses à l'annonce de l'évangile en France, dans le monde, dans mon pays, dans ma ville. J'ai le droit. À quoi ressemblerait la vie et le monde si tout le monde réagissait comme ça ? Je ne sais pas. En fait, je n'ose peut-être même pas l'imaginer. Est-ce que vous comprenez comment l'humiliation volontaire de Jésus est une puissante motivation pour nous humilier nous-mêmes, pour le servir, pour se servir ? Est-ce que vous êtes prêts à vous humilier ? Parce que le serviteur s'est lui-même humilié. Pour vous, pour nous, pour moi. Alors j'aimerais passer en mot de conclusion. Ne vous étonnez pas si ce que je dis n'est pas directement lié au verset que nous avons lu. C'est simplement un petit épilogue assez inévitable en référence à la citation des versets que nous avons lus en fait, dans le Nouveau Testament. Vous aimez les histoires, je le sais. Et j'ai une autre histoire pour vous ce matin pour finir. Un jour, un haut fonctionnaire rentre chez lui dans son char en lisant Ésaïe chapitre 53, versets 7 et 8. Il le lit à haute voix et il croise la route d'un chrétien qui lui demande s'il comprend ce qu'il lit. Le haut fonctionnaire lui répond « Mais comment le pourrais-je si je n'ai personne pour me l'expliquer ?» Le chrétien est alors invité à monter dans son char, quel privilège, à s'asseoir à côté de lui. « Explique-moi s'il te plaît, » demande le haut fonctionnaire. « De qui est-il question ? Est-ce de lui-même que le prophète parle ou de quelqu'un d'autre ?» C'est alors que, commençant par ce texte, Ésaïe chapitre 53, versets 7 et 8, le chrétien lui annonce la bonne nouvelle de Jésus, et c'est peut-être, ce n'est pas la Bible qui le dit, c'est moi qui l'imagine, peut-être le début de la diffusion de l'Évangile en Afrique. Peut-être. Cette histoire, c'est celle de Philippe, dans quel livre ? Les Actes des Apôtres, tout à fait, au chapitre 8. Philippe, qui à partir de ces versets, en fait, que nous avons lus, hein, les versets 7 et 8, a eu une occasion en or de présenter l'Évangile et qui a su saisir cette occasion, n'est-ce pas ? Et j'aimerais que nous imaginions la situation suivante. Vous avez 5 minutes pour présenter l'Évangile ou raconter votre témoignage à une personne que vous rencontrez en rentrant du camp, par exemple, à la gare de Grenoble ou alors sur une aire d'autoroute. Qu'est-ce que vous dites, par exemple, dans votre présentation de l'Évangile ? Vous avez 5 minutes. Quels sont les éléments que vous incluez sans utiliser de patois de Canaan ? Jésus est l'agneau immolé avant la fondation du monde pour la propitiation et l'expiation de mes péchés passés, présents et futurs, tout ça sous l'action de la rédemption objective et... Okay. Qu'est-ce que vous dites ? Vous avez 5 minutes pour être clair, cohérent. Autre question, dans votre témoignage, si quelqu'un vous demande comment vous êtes devenu chrétien, si vous êtes devenu chrétien, quels sont les éléments que vous incluez pour raconter l'œuvre de Dieu dans votre vie ? Même si vous êtes né dans une famille chrétienne, vous vous dites peut-être, mon témoignage n'est pas extraordinaire, hein, je ne suis pas un ancien drogué, je ne me suis jamais prostitué, je n'ai jamais fait partie d'un gang, mais en fait, vous êtes passé de la mort à la vie. C'est pas extraordinaire, ça ? Vous êtes passé de la mort à la vie. Quoi de plus spectaculaire ? Alors, deux choses pratiques, je l'espère en tout cas, pour nous aider à préparer ces choses. Tout d'abord, prier. Prions. Si nous ne prions pas, Seigneur, le Seigneur, si nous n'aimons pas ceux qui nous parlons, tout ce que nous allons dire, indépendamment de la pertinence de nos arguments, et vain, nul et non avenu. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous dépendons de lui dans la prière. Ce n'est pas nous qui agissons dans le cœur des autres, c'est Dieu qui agit par son esprit dans votre cœur, dans mon cœur. Ok ? Priez et priez encore, avant toute chose. Mais deuxièmement, avez-vous déjà songé à apprendre une présentation claire de l'Évangile ? De ce en quoi vous croyez. J'ai appris, dans ma tendre jeunesse, une présentation de l'Évangile intitulée « Deux façons de vivre », « Two ways to live » en anglais, qui raconte un peu le plan du salut en 6 étapes, la création de Dieu, c'est Dieu qui a créé toutes choses, c'est lui qui nous a confié le monde sous son autorité. Deuxième étape, la désobéissance de l'homme, qui a rejeté l'autorité de Dieu, la conséquence de cette désobéissance. La troisième étape, c'est en fait la mort, hein, signe du jugement de Dieu. La quatrième étape, eh bien, c'est la venue de Jésus qui est venu prendre sur lui, à notre place, le châtiment que nous méritions. La cinquième étape, c'est la résurrection, dont nous allons parler demain, qui garantit la validité du sacrifice de Jésus à notre place. Et la sixième étape, c'est le choix à faire. Celui qui croit en moi a la vie, celui qui ne croit pas n'a pas la vie. Pourquoi ne pas apprendre par cœur ? Cette présentation de l'Évangile, avec des dessins en plus, c'est vraiment fastoche. Et puis avec un verset à chaque fois, ça prend 2 ou 3 minutes à dire. Un jour, je l'ai fait sur la table d'un restaurant. Et 2 années plus tard, mon prof de journalisme avait encore ce petit dessin dans son portefeuille. Il n'avait pas tout compris. Il m'a dit, mais je l'ai gardé, est-ce que tu peux me réexpliquer ? C'est hyper pratique. Deuxième chose, votre témoignage. Est-ce que vous avez songé à rédiger votre témoignage, pour qu'il soit personnel, court et théo ou christocentrique. Personnel, ce n'est ni une prédication, ni un résumé de l'Évangile. C'est l'histoire de ce que Dieu a fait dans votre vie. Court, 2 ou 3 minutes, pas plus, avant, pendant, après, 2 ou 3 éléments. Et théocentrique, votre témoignage dans votre témoignage, si vous voulez, ne racontez pas votre vie. Racontez plutôt ce que Dieu a fait dans votre vie. L'œuvre de Dieu au travers du serviteur dans votre vie. Je peux vous envoyer tout ça par email si ça vous intéresse. On prie pour finir. On peut prendre quelques secondes dans le secret de nos cœurs pour réfléchir à ce que nous avons vu dans cette quatrième strophe du quatrième chant du serviteur. L'humilité jusqu'à la mort, le serviteur s'est humilié jusqu'à la mort. Une mort volontaire, une mort vicaire, une mort arbitraire. Il nous invite à nous humilier en suivant ce serviteur, en le servant, lui et les autres. Notre Dieu, notre Père, nous confessons que nous sommes parfois égoïstes, orgueilleux, vaniteux, désireux de nous mettre en avant dans une vaine intention de nous glorifier. Nous te demandons pardon et nous te remercions, car si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. Nous te remercions également pour ton serviteur qui, loin d'être égoïste, s'est humilié jusqu'à la mort en subissant une mort volontaire, vicaire, arbitraire. Dans son humilité, le serviteur a volontairement accepté d'être arraché à la vie suite au jugement qu'il a subi à notre place, alors qu'il n'avait rien fait de mal. Mais dans ta souveraineté, tout cela est arrivé conformément au plan de salut que tu avais déterminé d'avance. Nous te demandons de nous remplir de ton esprit pour que nous ayons en nous la pensée qui était en Christ Jésus, le serviteur, pour que nous suivions son exemple et imitions son humilité illimitée. En son nom et pour sa gloire, nous prions. Amen.